C'est la nuit debout, jeudi soir, en place de la République à Paris.
Micro, micro, Kev, vous m'entendez là ? On décide aujourd'hui la mise en place de rendez-vous réguliers avec des commissions, mais aussi des ateliers, juste pour se créer l'espace possible.
Pour que chacun ramène, s'il a une tente dépliable, qui se tienne toute seule. Parce que c'est assez chiant de planter les piquets dans la place. Donc tous ceux qui ont des tentes de seconde là, bah, tout le monde en ramène.
Occupy République.
Donc ça serait par exemple le blocage de lieux stratégiques. Donc par exemple quand on entend lieux stratégiques, ça serait les médias, les ministères, vraiment des points stratégiques de l'autorité et du pouvoir. J'ai oublié le plus important, donc on s'est dit qu'on pourrait commencer donc à établir une ZAD à la place de la République. Ça serait le principe, donc on tient cette place. Autant de temps qu'on peut, on tient la place.
Voilà.
Et donc là, le but, c'est qu'à partir de cette place, en fait, ça devienne le centre de notre pouvoir. Le pouvoir du peuple, le pouvoir démocratique, il s'organise ici et maintenant.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, vent debout dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Bertrand Chaumeton, assisté de Karen Day, avec à la technique aujourd'hui Enzo Labori et Elodie Royer.
Au sommaire cette semaine, c'est le 33 mars, nous ne revendiquons rien, lycéens en manif, tout le monde déteste la police, et à Grande-Synthe, une autre politique d'accueil des migrants est possible.
Nous ne revendiquons pas de droit, nous ne revendiquons pas du tout d'accueil. Revendiquer, c'est déjà s'être soumis. Les enfants réclament, grandis, ils revendiquent.
Et quand je vois combien il y a de policiers qui nous ont frappés, ils étaient une trentaine et tous, sans exception, nous ont foussé dessus, nous ont frappés. Et enfin, non, j'ai plus confiance en la police.
Wallahi, nous sommes en Europe.
C'est très très difficile de vivre ici. On est venu, on a pensé que l'Europe, elle va bien nous accueillir.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court que nous serions aujourd'hui le 33 mars. Pas le 2 avril, non, mais le 33 mars, soit deux jours après le 31, qui a vu débuter un peu partout une nouvelle forme de mobilisation. Aux airs d'indignés. Grève générale, criaient les manifestants contre la loi travail ce jeudi. Grève générale, ont repris beaucoup de voix qui se sont retrouvées pour dire « on s'arrête pas là ». Quitte à passer la nuit debout pour refaire le monde. Alors il y a les mots et puis il y a aussi les coups. Entre jets de pierre et gaz lacrymogène, Charlotte Perry fait le lien entre les violences policières contre les lycéens ces derniers jours et un rapport publié par l'ACAT sur 10 ans de violences policières, l'ordre et la force. Antoine Chao, lui, nous fait entendre comment les forces de l'ordre avaient opéré dans la jungle de la Calais. Après cette semaine, il nous emmène à quelques kilomètres de là, à Grande-Synthe, où c'est plutôt une politique d'hospitalité toute relative qui est mise en œuvre. Encore une piste pour agir autrement que la simple répression. Car nous ne revendiquons rien, disait l'économiste Frédéric Lordon dans l'amphi bondé de l'université Tolbiac à la veille de la manifestation. Et c'est lui que nous retrouvons dans une grande foire à la parole où les revendications ont laissé place à des affirmations. Alors tirez la langue pour voir comment ça va. Jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, dites 33.
Antoine Chao.
Charlotte Perry.
Qui vont-ils ? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Je pense que vous avez vu ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux.
Il faut qu'on arrive à recentrer le débat sur les personnes qui sont concernées par ce projet de loi.
On vaut mieux que ça.
On vaut mieux que ça.
Aujourd'hui, on est tous ensemble pour défendre nos droits. On vaut mieux que ça.
Mercredi 30 mars, 19h, Université Tolbiac à Paris, dans le 13e arrondissement. grand rassemblement avec des banderoles, la fac qui est en ébullition depuis maintenant quelques semaines et qui ont vu ses murs à nouveau se recouvrir de panneaux, d'affichettes, de dazibao. Et là, dans l'amphi N, on voit pour une université gratuite, populaire et émancipatrice, Paris a mobilisé contre la loi travail. Tolbiac, on contre-attaque. Sois jeune et tais-toi, a été rajouté sur un petit carton. Et je vois là, en grève jusqu'à la retraite. Jouir, pas jouir sans entrave, mais jouir sans état d'urgence. Lâche ta matraque, tu vaux mieux que ça. Le monde ou rien. Et je vois au pied de la tribune Frédéric Lordon qui est très très sollicité. Bonjour Frédéric Lordon, ouais. Je vous mets à contribution parce que vous allez parler dans quelques minutes.
Plutôt dans quelques heures, hein, là, parce qu'il y a... Oui. Il y a pas mal de personnes qui interviennent, mine de rien. Et même
si, je dois l'avouer, vous êtes assailli comme une star.
Oui, alors n'exagérons pas quand même, hein, voilà.
On s'était croisés juste à la manif du 9 mars.
Oui.
Et voilà qu'à la veille de la grande manif du 31, vous produisez un nouveau texte qui dit « Nous ne revendiquons rien ».
Oui.
Et voilà des jeunes gens très revendicatifs.
Oui, mais que je vais essayer de convertir à la non-revendication. Qui n'est pas un truc du genre je cultive mes bégonias et je lâche prise. Hein.
J'ai bien compris qu'au contraire, c'était un appel.
C'est exactement le contraire.
À voir l'atmosphère qu'il y a dans cette université, l'ébullition qu'il y a.
Il suffit de regarder ce qu'il y a écrit sur les murs pour s'en convaincre. C'est pas des slogans revendicatifs, ça. C'est autre chose.
Et qui creuse la rupture avec la gauche de gouvernement.
Non, qui scelle définitivement la rupture avec la droite de gouvernement. Non, la gauche de gouvernement, ça n'existe pas. Hein. Pour tout dire, il faut que je fasse mon propre mea culpa. C'est-à-dire que mes propres catégories sont devenues tout à fait obsolètes. Ceux qui sont aux manches, là, actuellement, je les appelais la droite décomplexée. Mais en réalité, je me demande même s'ils ne sont pas plus à droite que la droite complexée. Non, en réalité, il suffit de prendre le bilan, hein, il coche absolument toutes les cases. Puis alors, aujourd'hui, ça a été une journée faste, hein, entre la déchéance de la nationalité qui est abandonnée, la sous-ministre Laurence Rossignol qui parle des nègres qui aiment l'esclavagisme, etc.
En parlant des femmes et
voilà,
de voile.
Voilà, c'est ça, voilà. Il n'y a pas un jour, c'est presque une performance, quoi. C'est impressionnant. Il n'y a aucun effet d'apprentissage possible. Puis de toute manière, on ne peut pas transformer des gens de droite en gens de gauche. Ça serait une anticipation déraisonnable. Donc il faut l'abandonner et le plus vite sera le mieux.
Alors qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes-là qui sont dans l'université? Parce que vous leur tendez la perche, vous dites allez les gars, à
ouais,
peu de choses près.
Oui, mais j'ai pas besoin de leur tendre la perche, ils se la tendent eux-mêmes et on est tous là pour s'échauffer mutuellement.
Bonjour à tous et à toutes. À ce meeting dans lequel vont intervenir bon nombre de secteurs en lutte, en commençant par les étudiants et étudiantes de certaines facs mobilisées, les lycéens, les lycéennes, des cheminots de Austerlitz et Saint-Lazare, Fyodor Milov, l'avocat des fondeurs, et Frédéric Lordon. Les camarades de Paris, je pense qu'on est vraiment tous super fiers actuellement. On n'a jamais vu en fait d'amphi aussi plein, ni pour l'Assemblée Générale, et franchement, même pour un cours.
Je m'appelle Khalil, je viens au nom de camarades de Sciences Po Paris. La semaine dernière, on a occupé pendant 3 jours, on a créé une université alternative au cœur de l'école du pouvoir. On est face à une administration réactionnaire qui menace de poursuites judiciaires pour avoir occupé un amphithéâtre. Et je vais faire court, on est là que même dans l'école du pouvoir, il y a des fils et des filles d'ouvriers, des étudiants de toute origine sociale qui se battent en solidarité avec les travailleurs, les travailleuses, les sans-papiers, les réfugiés et tous les étudiants, et notamment les étudiants Colbiac, qui s'en ont pris plein la gueule. Voilà, merci beaucoup pour ce soir.
Bonjour, vous êtes étudiant ?
Ah, non.
On a été étudiant. Donc les assemblées générales, on connaît un peu, mais il y a longtemps.
Pendant ce temps-là, il y a les hygiaphones qui arrivent.
On a été étudiant entre 1956 et 1959 à l'école normale supérieure d'éducation physique à Joinville. Voilà.
Tous les deux.
Janine et René.
Et qu'est-ce que vous faites ici alors à ce grand raout, là, à l'université Tolbiac ?
Qu'est-ce qu'on fait ici à cette université Tolbiac ?
On a lu sur un site d'Hémosphère qu'il y avait le rassemblement de ce soir. Alors, pour nous préparer pour la journée de demain, on est venu rapidement.
Oui. Mais moi je dis que. Quand même, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle révolution qui se prépare. Il faudrait bien, en tout cas.
Donc là, un mouvement collectif, ça nous plaît parce que... Voilà. Non, c'est important, là, parce que... Est-ce que c'est une hirondelle qui annonce le printemps ? On ne sait pas trop, etc. Mais comme c'est le premier mouvement de cette importance depuis... L'élection présidentielle et tout ce qui en a découlé du point de vue des illusions anti-Hollande à fond la gomme, etc. pour des gens comme nous, là on revit quoi.
Bonsoir, alors moi je m'appelle Nathan, du coup je suis en terminale au lycée Autogéré de Paris et... Merci. Mais je veux juste vous faire une chose, c'est que depuis le début de la mobilisation en fait sur les lycées, on entend les Emmanuel Macron, les Al-Khomri, on entend même Laurent Berger en fait nous expliquer que plus on est jeune, plus on est des groupes. Que quand on bloque les lycées, quand on sort dans la rue, c'est juste qu'on n'a pas compris la loi en fait. On est des petits branleurs, on est incapable de comprendre dans quel monde on vit. Et en fait, on cherche juste à se faire kiffer devant notre lycée en fait. Et bien juste, aujourd'hui les lycéens ils refusent cette argumentation mesquine. On massacre notre avenir et on l'offre en sacrifice au profit des plus grands capitalistes. Et dans cette loi, ils voulaient faire travailler les apprentis. 40 heures par semaine les apprentis mineurs, ils sont payés 364 € par mois. Mais c'est révoltant. Et apparemment, non, c'est super cool, on aurait juste pas compris, en fait. C'est ça le truc. Alors moi j'ai un message à tous les Pierre Gattaz, tous les Macron, c'est si c'est si sympathique la précarité de la jeunesse, 25% de chômage des jeunes, c'est super cool, en fait. Bah si c'est si cool, on va faire un truc, venez taper à notre place, en fait, y a pas de souci. Un contrat d'apprentissage pour payer en 4 ans.
Je suis comme on voulait le quelqu'un, oui, mais je suis quelqu'un, je suis comme on voulait le quelqu'un, what you waiting for, je suis quelqu'un.
Et si l'éducation est la clé de l'émancipation, j'ai retrouvé mon estime enfouie dans les écrits d'un poète maudit. Ils m'ont redonné l'honneur et la dignité de ma race, la race de ceux qui marchent debout. Je tiens le futur dans ma poche comme un flingue. Le doigt sur la gâchette, j'attends le bon moment. Pas besoin de diamant pour briller, je te le dis avec le sourire. Avec le calme et l'insolence caractéristiques de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Leur domination n'est qu'un état d'esprit, un conditionnement. J'annonce le point de rupture, je ne suis pas l'esclave, je suis le maître. Ni mectour, ni fatalité, leur histoire se termine là où la mienne ne fait que commencer.
Je suis comme on voulait quelqu'un, oui, mais je suis quelqu'un. Je suis comme on voulait le lait, quelqu'un, what you waiting for, je suis quelqu'un.
Et c'est pour moi je suis très heureux d'être là ce soir, d'avoir été invité à la tribune, parce que j'ai l'impression que ce meeting il pose des bases de ce qui devrait exister dans chaque fac, dans chaque lycée, dans chaque lieu de travail en fait. Il pose des bases d'un mouvement large, d'un mouvement unique, qui s'arrêtera pas au long de la loi, et qui va continuer ensemble dans la rue à partir du jour.
camarades cheminots avec
moi, en fait, je suis cheminot à Paris au service. Moi, je suis à... je vends les billets, je renseigne les gens, tout ça. Donc, merci tout d'abord de nous avoir invités dans votre trajet. Bah, franchement, vous me déchirez. Quoi. C'est juste énorme.
Vous venez de prendre la parole en tant que syndicaliste sud.
Moi, je travaille à la SNCF, à la gare Saint-Lazare. Et donc, nous, la position qu'on pense qu'on doit partager partout, c'est l'idée qu'il faut profiter de cette jeunesse qui se révolte pour que l'ensemble des secteurs du salariat qui ont des choses à revendiquer dans leur quotidien, avec les suppressions de postes, avec la dégradation des conditions de travail, qu'on profite tous de l'occasion pour pousser le coup de gueule en même temps, faire converger les luttes au lieu de les saucissonner. Merci Gabriel.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous êtes étudiant ou lycéen, vous ?
Lycéen. On était mobilisés. Là, on a des problèmes avec l'administration parce qu'on a un bac blanc demain pendant la mobilisation. Alors, ça coince. Probablement qu'on rejoindra la manif à la fin de notre bac blanc.
Après le bac blanc, voilà. Ouais. Et donc là, c'est un tour de chauffe à l'université avant de voir.
Quelque part, oui. Quelque part, c'est l'entrée dans un nouveau monde. C'est l'entrée dans le monde du combat, dans le monde réel, dans l'action. Peut-être que faire ça prépare mieux au bac qu'autre chose, parce que ça apporte une vision critique, un libre arbitre, c'est aussi une forme d'apprentissage.
Et qu'est-ce qu'ils disent vos parents quand ils vous voient manifester jusqu'à pas d'heure comme ça dans les AG et aller faire les manifs?
Alors là, ma mère me dit tu as jusqu'à 10h, reviens à la maison. Mais globalement, ils sont plutôt d'accord. Donc quelque part, j'ai aussi cet argument-là pour leur faire accepter que je sorte, puisque voilà, c'est un nouveau monde que je découvre et ils ne peuvent pas le nier.
Bah, merci beaucoup. Là, il nous reste une dernière intervention. C'est celle de Frédéric Lormont. Je ne sais pas s'il a besoin de le présenter du tout.
Je voudrais d'abord vous dire combien je suis impressionné par ce qui se passe ici et par ce que vous faites. Mais enfin, voyons, on a là un avocat des lieux. Il nous manque le syndicaliste énervé. Hein. On a des étudiants qui ont passé depuis longtemps leur point d'ébullition. Des lycéens très à chaud également. Des camarades cheminots en lutte. C'est quand même un fameux ramassis, cette tribune. C'est la cour des miracles, il y a tout. C'est vraiment l'horreur, je veux dire, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar de ministres, de directeurs de cabinet, de conseillers techniques. Et c'est vrai que c'est l'horreur pour eux. Déjà, la sédition des jeunes au naturel, c'est la hantise du pouvoir. Mais ça hantise au carré, c'est le contact des jeunes avec les classes ouvrières, et plus généralement avec le salariat, soit exactement ce qui est en train de se passer ici, ce soir. Le pouvoir se retrouve confronté non seulement à la réunion de gens qu'il s'efforce habituellement de tenir séparés, mais à des questions qu'il s'efforce de maintenir refoulées. Qu'il soit bien clair désormais que nous nous foutons de la loi El Khomri. Bien sûr, la loi El Khomri est là, et je serais presque tenté de dire, à notre plus grande satisfaction d'ailleurs. Il nous manquait réellement un petit quelque chose pour faire précipiter à grande échelle tout ce qui est en suspension depuis si longtemps. En tout cas, de ce que nous nous foutons de la loi El Khomri, il suit que nous ne revendiquons nullement qu'elle soit modifiée ou réécrite. Nous ne revendiquons pas de droit. Nous ne revendiquons pas du tout, d'ailleurs. Revendiquer, c'est déjà s'être soumis. Revendiquer, c'est s'adresser à une puissance tutélaire aimable, à un débonnaire bienfaiteur. Les enfants réclament, grandis, ils revendiquent. Eh bien, pour le plus grand malheur du bienfaiteur présent, nous sommes plutôt décidés à sortir de l'enfance politique. Mais la loi travail, qu'on pourrait peut-être d'ailleurs tout aussi bien appeler la loi capitale, cette loi travail aura eu ce merveilleux pouvoir de nous réunir autour de questions fondamentales, parmi lesquelles celle-ci. Qui a besoin de qui? Entre les propriétaires du capital et les salariés, qui a le plus besoin de l'autre? Malheureusement, pour ceux qui croient être du côté du manche, le critère ne tranche pas en leur faveur. Eh bien, le jour où de cela... tout le monde aura une claire conscience. Je ne donne pas cher de leur peau. Si ce qui se passe maintenant a un sens, il est de nous préparer à les oublier et de commencer déjà à réfléchir à la manière dont nous vivrons sans eux, c'est-à-dire dont nous vivrons pour nous, à demain dans la rue et à la nuit debout.
Si ça vous chante, le rendez-vous est donc donné pour une nouvelle nuit debout ce soir, un Paris un peu partout. Vous pouvez aussi aller retrouver Nous ne revendiquons rien, le texte de Frédéric Lordon sur le site du Monde Diplomatique, le blog qu'il y anime. Ni cher à patron, ni cher à matraque, les étudiants contre-attaquent. Voilà un des slogans qui passe dans les manifestants et dans les manifestations. Et voilà pourquoi Charlotte Perry, elle, va nous amener du côté matraque avec les lycéens. Suite Comme un bruit qui court.
Comme un bruit qui court.
Un bruit qui court. Comme un bruit qui court.
89 cas de blessures graves, dont 26 ayant entraîné la mort, ce ne serait qu'un échantillon des violences policières commises entre 2005 et 2015.
Trois policiers marseillais ont été condamnés aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis pour la mort d'un autiste.
Amin Bentounsi, 29 ans, a été tué par un policier.
Jeudi dernier, devant le lycée Bergson dans le 19e arrondissement de Paris, un lycéen filme cette scène. La vidéo, vue plus de 2 millions de fois, fait réagir le ministère de l'Intérieur. Le fonctionnaire qui assène le coup de poing a été placé aujourd'hui en garde à vue dans les locaux de la police des polices.
Police partout !
Jeudi 31 mars, les lycéens manifestaient entre la place de la Nation et la place d'Italie contre le projet de loi travail El Khomri. Mais les violences perpétrées par des policiers la semaine précédente sur des élèves du lycée Bergson, un établissement populaire du 19e arrondissement de Paris, les ont scandalisés. Jeudi 24 mars, une vidéo tournée par un lycéen montrait un élève se faire violemment frapper au visage par un policier. La vidéo a fait le tour du net et a enflammé les réseaux sociaux. Un acte d'une violence inadmissible, insupportable, tant et si bien que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est senti obligé de réagir.
Ces images sont choquantes. Et ces images m'ont choqué, car elles ne correspondent pas à ce qu'est l'idée qu'une immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des policiers de France, se font de leurs missions et des conditions dans lesquelles ces missions doivent être exercées.
Certes, ces images ne correspondent pas à l'idée que se font la majorité des policiers de leur mission. Mais ce qui est arrivé à Adam, élève de seconde au lycée Bergson, est cependant loin d'être un événement isolé. Juste avant le départ en manif avec les lycéens, nous avons rencontré Aline Dayer, auteure du rapport « L'ordre et la force » publié le 14 mars dernier par l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, une radiographie de 10 ans de violences policières, un éclairage essentiel pour comprendre la défiance des citoyens envers la police.
Je suis Aline Nayer de l'association ACAT, donc auteure du rapport sur les violences policières. Des témoignages de violences, rien que sur les manifs contre la loi Khomri, El Khomri, il y en a eu des dizaines et des dizaines. Ce qui est effectivement extrêmement rare, c'est d'entendre Bernard Cazeneuve se dire choqué de ces faits, parce que je suis même pas sûre qu'on l'ait entendu prononcer ces mots pour le décès de Rémi Fraisse et pour tous les autres décès qu'il y a eu depuis ou toutes les autres blessures. Là, l'enquête révèle qu'il y a des dizaines de personnes qui sont blessées, certains des enfants, des gamins qui sont éborgnés par des tirs de flashball dans des manifs, des gens qui décèdent pendant des interpellations qui, à la base, sont tout à fait banales. J'ai jamais entendu le ministre de l'Intérieur se dire choqué de tels faits. Donc là, c'est la vidéo qui fait qu'on entend ces mots. On s'est aperçu, en s'intéressant à ce sujet au départ, qu'on manquait d'énormément d'informations, qu'il y a très très peu d'informations de la part des autorités. On ne connaît pas le nombre de personnes blessées ou décédées chaque année dans les opérations de police ou de gendarmerie. On ne sait pas combien d'armes sont utilisées chaque année. On ne sait rien, en fait. Il y a un nombre de chiffres absolument incroyable sur tout et n'importe quoi aujourd'hui. On connaît à l'unité près le nombre de gardes à vue par an. On connaît, et ça c'est normal, on connaît aussi le nombre de policiers ou de gendarmes qui sont blessés chaque année, qui sont décédés. Par contre, le nombre de personnes qui sont blessées ou décédées dans des opérations de police ou de gendarmerie, ce chiffre n'existe pas. Enfin, il existe très certainement, mais il n'est pas rendu public, quoi. Et donc, la CAT a souhaité réaliser un état des lieux. Et donc, c'est comme ça qu'est partie l'idée de cette enquête qui a duré 18 mois. 89 cas de violences alléguées en 10 ans, entre 2005 et 2015. Là, on a pas mal analysé l'utilisation du flashball et du taser. Donc, la CAT a recensé à ce jour au minimum 40 personnes victimes de flashball, pour la plupart éborgnées, ou certains des gamins l'été dernier qui ont été mutilés au niveau des parties génitales après avoir reçu ce type de balles sur eux. Donc ça, c'est les flashballs. Et il y a les tasers, donc qui envoient une décharge électrique. et dont on ne connaît pas du tout les effets. Aux États-Unis, il y a énormément, on parle de plus de 500 personnes qui sont décédées après l'utilisation de Taser. En France, la CAT a recensé à ce jour 5 personnes qui sont décédées après l'utilisation d'un Taser. Mais pour l'instant, on n'a jamais réussi à démontrer que c'était lié à cette arme. C'est des armes qui sont présentées comme non létales, mais en réalité, et le flashball et le Taser sont des armes qui peuvent causer la mort. Et pour les flashballs, des armes qui provoquent des blessures de manière vraiment, vraiment disproportionnée. On s'est interrogé, disons, pendant l'enquête, sur une évolution de la manière d'agir en maintien de l'ordre par les policiers et les gendarmes. La doctrine historique du maintien de l'ordre à la française, il y a quelques années encore, était de maintenir les manifestants à distance, les repousser en utilisant des armes comme les lacrymogènes. Maintenant, dans les manifestations, les policiers, avec le flashball qui est muni d'un viseur et d'un rayon laser, pointent le faisceau laser sur les visages des gens, tirent sur elles et les blessent.
Dissuader sans blesser, voilà pourquoi a été conçu le flashball lors de sa mise en service en 1995.
Ce chauffeur de VTC s'en tire avec une cicatrice de 23 cm et 3 semaines d'arrêt de travail, suite au tir de flashball qu'il a reçu en pleine tête.
Ils ont dit charger, ils ont tiré. J'étais sourd, j'entendais plus rien, j'avais la tête qui tournait, je regarde le sol et je vois que du sang qui coulait.
L'affaire a été confiée à la police des polices qui demandait fin mai l'abandon de cette arme, car trop imprécise.
Mais pour vous, hors de question de vous passer du flashball.
Ah, pour nous, hors de question de nous placer du flashball. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise nos poings? On utilise un automatique 9 mm?
Aujourd'hui, c'est au tour de Jacques Toubon, le défenseur des droits, de préconiser l'interdiction lors de manifestations des flashballs, inadaptés au maintien de l'ordre, selon lui.
Il ne peut pas y avoir de confiance envers la police si la police ne se rend pas digne de ça. Les citoyens ne peuvent avoir confiance que si elle est respectueuse des lois de la République, que si... Quand il y a des dérapages ou des blessures, les policiers sont condamnés, qu'il y a des sanctions fermes, parce que c'est grave pour un policier, c'est extrêmement grave. Ce qu'on a vu, le policier qui frappe, qui donne un coup de poing hyper violent à un lycéen de 15 ans, c'est hyper grave. Je ne sais pas quelle sera la condamnation de ce policier. Ce serait intéressant de suivre, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, mais je ne suis pas sûre que derrière il y ait grand-chose.
Parce que donc ça, c'est le deuxième grand volet du rapport. C'est l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences policières.
On s'aperçoit sur les 89 cas que l'on a examinés qu'il y a très très peu de condamnations judiciaires. On a 6 condamnations judiciaires. On parle de 26 décès, de 29 infirmités permanentes et le reste est des blessures graves qui n'ont pas entraîné d'infirmité permanente. Donc c'est vraiment les cas les plus graves. Sur ces cas les plus graves, on a 6 condamnations. Qui sont, à part une condamnation assez forte d'un policier qui a été condamné à de la prison ferme, sinon c'est que des condamnations qui paraissent faibles. On a par exemple une condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour 3 policiers reconnus coupables d'homicide involontaire qui ont tué un monsieur autiste en l'interpellant. Il est mort étouffé pendant l'interpellation. Face à ça, on a un jeune homme qui manifestait à Nantes, qui lui a été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir fabriqué et jeté un fumigène en manifestation. Il n'y a pas eu de blessé, il a fabriqué et jeté un fumigène, bon, c'est un fait illégal, condamnation pourquoi pas, mais 1 an de prison ferme. Les gens ne peuvent pas comprendre la disproportion des peines entre d'un côté les policiers et d'un autre côté les citoyens. Et ça, ça contribue très clairement à la défiance et au manque de confiance envers la police et envers la justice. En France, les enquêtes, elles sont réalisées par les policiers et les gendarmes eux-mêmes. Donc voilà, ça interroge quand même très fortement sur l'impartialité de ce type d'enquête. Ça augmente la violence de part et d'autre. La violence entraîne la violence et on n'en sort plus. Et surtout, le risque, il est pour la démocratie aussi, d'avoir des gens qui sont dépositaires de la force publique, des représentants de l'État, qui blessent, qui mutilent ou qui tuent leurs citoyens, et que ces gens-là ne soient pas... qu'il n'y ait pas de vraie enquête, qu'il n'y ait pas de vraie sanction, c'est pour la démocratie, c'est extrêmement grave. Cette impunité est extrêmement inquiétante.
Il est fort au droit, la justice pourquoi ? La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque le dealer de ma vie.
Elle est compris, si tu savais, que le bon monde s'arrête. Aucune hésitation, non, arrête ton violon, oui, à la révolution.
Alors voilà, il est un petit peu plus de 12h. Et le cortège de lycéens quitte la place de la Nation.
Ralentissez quand tu
avec les banderoles en tête, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, à quoi bon étudier si c'est pour être viré ? L'OL Khomri égale fraude fiscale. Je travaille, tu travailles, nous travaillons, ils profitent. Et le cortège, un peu chaotique, s'engage sur le boulevard Diderot. Ouais, ça y est, des jeunes qui commencent à sauter sur les voitures, qui sautent sur les camionnettes, sur les voitures.
Les murs à la crue, mais non plus.
Un sacré foutoir. Et les plus jeunes. Des gros pavés là qui commencent à tomber sur les boucliers des policiers, des bouts de bois. Une lignée de policiers qui ferment l'entrée du cortège. On arrive à Doménil. Sort de CRS qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ce monde me rend contestataire. Pourtant, je rêve de paix et de bonheur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, je peux pas me taire. Désolé, je veux réveiller les frères et sœurs. Monde de fous, je veux pas attendre de voir ce que l'enfer réserve. Je suis peut-être idéaliste, certains me le reprocheront. Mais on a besoin d'idéaux pour bousculer les choses. Alors laisse-moi crier même à blanc le mal d'une époque. Même il te trouvera dans les yeux de mes sisters et de mes potes. Parce qu'on est conscient que ça tourne pas rond et qu'il n'y a pas de solution. Tu m'aimes pas encore, alors ça se passe sur des résolutions. Change le monde qu'à son échelle, es-tu prêt pour la révolution? Car faut voir à quelle prise on se parlait d'évolution, d'évolution. Le sud qui crève pour que le nord bouffe, paraît que c'est mort de rêve de voir toujours les mêmes qui morphent tous confiants. Face au progrès technique, et quand tout sera informatisé, on se plaindra de cette bienfait niquée parce qu'ils nous la mettent. Et ça, qu'on l'admette ou non, ce qu'on veut pas admettre, ils génèrent que misère et tourment. Parce que trois quarts des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements qui nous la mettent. Et ça, qu'on l'admette ou non, parce qu'on veut pas admettre, ils génèrent que misère et tourment. Parce que trois quarts des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements. Aussi que je peux pas me taire quand je pense au mode de vie de mon peuple à l'autre bout de la terre. Mes amis qui m'ont dit toi t'as de la chance d'être né en France. Tu peux te construire un avenir et venir nous voir en vacances. Alors lâche pas, parce que tu peux encore rêver. Je le jure au moins pour eux que je penserai droit jusqu'à l'arrivée. Que j'oublierai pas que la parole est une arme, que c'est rare d'être entendu. Donc je viens pas pour glorifier les drames de la rue, mais sans espoir, car faut y croire. Car tout est possible quand on veut. Ceux qui veulent tous nous voir au placard. Parce qu'ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra la rabia del pueblo.
Vous avez une grande banderole.
Oui, c'est les profs et nous qui l'avons fait ce matin au lycée, alors qu'il était fermé. Et là, on manifeste contre la loi El Khomri, contre les violences policières, parce qu'on a vu trop de gens se faire frapper. Et on ne va pas s'arrêter là.
Il y a écrit quoi sur votre banderole?
La violence policière détruit le lycée Bergson, construit.
La violence policière détruit le lycée Bergson, construit.
C'est ça.
Parce qu'au lycée Bergson, donc la semaine dernière, ouais. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé?
Alors, on a fait un blocus normal.
Ah, c'est la guerre.
Genre, on a fait un blocus, tout le monde était calme. Et les flics, ils ont commencé à nous charger, à frapper tout ce qui bougeait, tout ce qui bougeait pas. Et ils ont embarqué des gens pour rien.
Ils ont attrapé des personnes.
Ils ont attrapé des amis à nous et on les a vus se faire frapper. C'était juste horrible et on est contre ça.
Alors parce qu'on a, on a beaucoup vu circuler sur internet la vidéo de Adam, je crois, il y a 15 lui, ans. Hein. Mais il n'y a pas que lui,
il y a Steven. Il y a Steven, il y a Hugo, il y a Adam, il y a plein de gens, vraiment.
Il y a Ashraf.
Ashraf, il s'est fait mordre à l'oreille.
Ils ont voulu violer.
Oui, ils ont dit, on va violer vos mères, vos pères. On va vous défoncer, enfin, ouais, que des trucs horribles.
Il y a un mineur qui s'est fait garde à vue pendant 48 heures.
Il est mis en examen et je le connais. Et ma mère le suit. Et on va tout faire pour se battre pour que les flics qui ont fait ça, ils soient punis.
Parce que ta mère, elle fait quoi pour le suivre?
Ma mère, elle est à la FCPE du lycée. Au début, ils y croyaient pas. C'est tellement inhumain et c'est tellement incroyable que ça arrive. Qu'au début, ils croyaient pas à ça. Et quand il y a eu les vidéos, quand tout le monde avait le même témoignage, ils ont été abasourdis, vraiment. Ils y croyaient pas. parce que c'est vraiment énorme ce qui s'est passé en fait. On espère qu'ils soient jugés, qu'ils aient la peine qu'ils méritent, parce qu'ils ne peuvent pas rester sans rien après ce qu'ils ont fait en défigurant des enfants. Enfin, c'est vraiment pas possible. On espère vraiment qu'ils soient jugés, vite.
Vous avez confiance dans la police ?
Plus maintenant.
Non, non.
Non. Plus maintenant, après ce qui s'est passé, plus maintenant. Je les défendais tout le temps avant, mais avec ce qui s'est passé, non. J'ai plus confiance.
Avant, vous défendiez la police ?
Bah, je me disais qu'il y avait des pourris et qu'il y en avait qui n'étaient pas pourris. Et quand je vois combien il y a de policiers qui nous ont frappés, ils étaient une trentaine et tous, sans exception, nous ont foussé dessus, nous ont frappés. Et enfin, non, j'ai plus confiance en la police. C'est pas parce qu'ils font partie de la police, qu'ils ont une arme, un uniforme, qu'ils sont différents de nous. On leur enlève tout ça, ils sont comme nous. Donc sinon, on peut être jugés, eux aussi.
Vous vous appelez comment ?
Judith.
Vous êtes en quelle classe ?
En première.
Donc là, aujourd'hui, la manifestation contre la loi El Khomri, ça ressemble de plus en plus. Ouh là là, il y a un mouvement de foule.
Ne courez pas !
À une manifestation contre la police, à cause de tout ce qui s'est passé aussi.
Il y a des deux, contre la police et contre la loi El Khomri, parce qu'on ne l'oublie pas, c'est aussi le principal sujet. Et on espère que ça va changer les choses.
Ne bougez pas ! Pourquoi tout le monde repart dans l'autre sens, là ?
La Fimo, là.
Ah oui.
Ça va piquer un peu.
Moi, je voulais dire que... Camille, j'ai 16 ans, je suis à Bergson. J'ai un ami à moi qui a été embarqué, qui a été gardé 48 heures, parce qu'il avait un œuf sur lui. On l'a embarqué comme un animal.
Un œuf ? Juste un œuf ?
Oui. Il n'avait pas assez d'éléments contre lui pour se faire tabasser et être incarcéré en garde à vue 48 heures et être retrouvé en caleçon au milieu du Comico. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter genre de nous dire on est là pour vous protéger, mais vous êtes juste là, regardez, regardez, on fait rien, c'est une manif. Même s'il y a des casseurs, prenez les casseurs et cassez-vous parce que c'est bon, genre.
Moi, je viens de me prendre un coup de gaz dans les yeux.
De gaz lacrymo ?
Ouais.
Attention, il y a justement la police derrière nous. Oh, 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 il commence à la pousser avec sa matraque.
Avant, j'avais confiance en la police. Maintenant, j'ai vu, jeudi dernier, ce qui s'est passé. J'ai plus confiance.
Paris, debout, soulève-toi !
Et le policier accusé d'avoir frappé Adam sera jugé en mai pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Un début, mais on est encore loin des recommandations du rapport de l'ACAT qui préconise entre autres plus de transparence et la création d'un organe indépendant pour enquêter sur les violences policières. Et tout de suite, on part du côté de Calais avec Antoine Chao.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Un cimetière des plus classiques, hein, avec...
Avec plein de noms du coin, hein, Foucault, tout ça, il doit y avoir plein de Fasquelle et tout. Et on arrive à un endroit où, donc tu vois, il y a beaucoup beaucoup de sable, il reste encore de l'espace libre, et il y a des petites pancartes en bois, avec quelques petites tombes. Alors voilà, on arrive ici, tu vois, en 2015, on a déjà quand même pas mal de tombes.
Hein. Fadel Salé. 1993-2015, 22 ans. Abderrahman Adam, 22 ans aussi.
23 ici.
Ali Saïd.
Et là, on voit une ligne derrière, là où il n'y a que des numéros. Là. Numéro 5107, 5108, et voilà. On sait qu'il y a déjà des gens qui habitent dedans.
C'est la tombe du réfugié anonyme.
Exactement, c'est quelqu'un qu'on a dû retrouver dans le Nord et que personne ne sait vraiment qui c'est. Et puis vu que ça faisait plusieurs jours, pour la reconnaissance, c'était un peu plus compliqué.
Et donc là, il y a encore une dizaine d'emplacements qui sont préparés.
Oui, exactement, avec des panneaux écrits rien dessus. Voilà, ça laisse présager un joyeux futur sur Calais.
C'est trop dur. Il y a beaucoup qui meurent et il y a beaucoup d'immigrants qui meurent.
Ce matin, près de Calais, un migrant a été renversé par un poids lourd. Il est décédé, le chauffeur a pris la fuite. Il est activement recherché.
Et il s'appelait Ali Sarraï. Il avait 22 ans, était afghan et il est mort jeudi, donc renversé par un camion sur l'autoroute qui mène au tunnel sous la Manche ou au ferry. Et il va certainement trouver sa place dans le petit cimetière de Calais. Il y reste de la place. Nous l'avions peut-être croisé, Ali, la semaine dernière au cours du reportage dans la jungle de Calais après la destruction de la partie sud du bidonville. La politique de dissuasion appliquée à Calais n'est pourtant pas la seule solution. À quelques kilomètres de là, à Grande-Synthe, c'est plutôt l'option de l'hospitalité qui est mise en œuvre par le maire, Damien Carême, avec le concours de MSF et de l'association Utopia 56 pour venir en aide aux migrants désirant atteindre le Royaume-Uni. Une autre politique d'accueil des réfugiés est possible.
Ils ont mis les grillages partout, c'est trop dur.
Damien Carême, alors comment ça se passe alors à Grande-Synthe? Comment vous avez géré, vous, cet accueil?
Bah on a anticipé pour éviter que ça devienne Calais. Devant l'arrivée massive en octobre, novembre, décembre, je ne voulais pas que la situation s'éternise sur le camp du Baroque à l'époque. Et donc on a anticipé en préparant le déménagement du camp et en améliorant surtout les conditions d'accueil des réfugiés qui vivaient dans la boue, dans la flotte. C'était insupportable.
Donc c'est possible de proposer un accueil différent?
C'est possible, ça n'a rien de luxueux, le camp de la Linière aujourd'hui, c'est des petites baraques de bois, mais au moins on n'est pas dans la boue, on n'est pas dans l'eau, on est chauffé, on a des sanitaires en nombre suffisant, des douches en nombre suffisant, voilà, on offre un minimum de dignité à tous ces êtres humains qui sont présents.
Alors c'est en attendant quoi ?
En attendant que ces personnes soit demandent l'asile, soit réussissent à passer, soit réorientent leur projet de vie, puisqu'ils sont partis de leur pays avec un projet d'aller en Angleterre. Aujourd'hui, de plus en plus, sont en train de revenir sur ce projet parce qu'ils se rendent compte peut-être que l'Angleterre, c'est pas tant l'Eldorado que ça, aussi de la difficulté de passer en Angleterre. Et donc, voilà, certains sont en train de changer d'avis. Et puis, en améliorant les conditions d'accueil aussi, je me dis que peut-être ça leur donnera plus envie de rester dans notre pays que les conditions dans lesquelles ils vivaient auparavant.
Mais ça a été compliqué de proposer autre chose, donc quelque chose qui n'est pas la dissuasion, ce qui est appliqué plutôt à Calais.
J'ai été aidé par beaucoup d'associations, par beaucoup d'ONG. J'ai dû peut-être un peu forcer la main à un moment à l'État. Mais voilà, on va se retrouver parce qu'on a besoin de faire les choses ensemble. J'ai besoin de l'État. Voilà, je pense qu'on va y arriver dans quelques temps. On va parvenir à trouver la solution qui nous permette de continuer à bien travailler ensemble comme on travaille ensemble depuis des mois.
Welcome to reality. Bienvenue à la réalité. Là, il y a un petit bras zéro. Alors, on est quand même ici à Grande-Synthe. On est entre l'autoroute qui mène de Calais à Dunkerque et les voies ferrées de l'autre côté. Donc, c'est une bande de terre avec des petites cabanes en bois à perte de vue. Et c'est le matin, donc les réfugiés qui sont là se réveillent petit à petit. Les cabanes ont été doucement personnalisées. Alors il y en a une avec le drapeau du Kurdistan, avec une écriture Kurdistan en rouge. Dans une autre, alors il y a des tags dessus. Je vois les humains, mais je ne vois pas l'humanité. Et donc il y a 5 paires de chaussures devant. Donc il y a 5 personnes là qui dorment dans la cabane 163. Qui doit faire 10 mètres carrés, quoi. Mais avec un toit en tôle, avec des murs en contreplaqué. Et là, cabane 162, c'est pareil, hein. Il y a 4-5 paires de chaussures devant.
Allô? Ouais. Ouais. Ok, d'accord, je suis pas à la régie. Je transmets ça à Simon, pas de soucis. Bah, je m'appelle Gaël Manzi, je fais partie d'Utopia 56, je suis chargé de la coordination avec mon père. Donc on est une toute nouvelle asso, quoi. On est tout frais. On a créé cet asso pour recruter des volontaires français à la base et pour sensibiliser les gens à aider les réfugiés, parce qu'on trouve que les Français sont pas tellement engagés. Le camp a été dimensionné pour 2500 personnes, parce qu'à l'époque il y avait 2500 à 3000 personnes dans la jungle du Baroque. Et au moment du déménagement, il n'y en avait plus que 1500. Donc du coup le camp est voué à rester à 1500 personnes.
Alors Gaël, ici on présente ça comme une initiative qui est complètement différente de celle qui a été menée à Calais.
Bah, le but, c'est toujours le même, hein, c'est le combat des assos, c'est d'améliorer les conditions de vie, d'avoir un minimum pour vivre, quoi. C'était pas vivable. Donc on se doit d'aider les gens et les sortir de la boue et leur donner un lieu de vie, de la nourriture, le minimum vital. C'est pour ça que c'est très important que ça se passe très bien ici et que ce soit un exemple pour l'avenir, quoi. C'était un projet de tente à la base, mais vu le climat à Dunkerque, ça n'a pas marché. Trop de vent. Donc du coup, c'est passé sur un projet de shelter, des petites cabanes en bois, du coup. Alors à terme, pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses qui sont en construction, mais à terme, il y aura des cuisines communautaires, il y a des blocs de sanitaires. Il y en a 4 pour le moment, il y en aura 6 par la suite. Il y en a 2 qui sont en train d'être installés. Il y a un projet d'école aussi, il y a plusieurs projets divers, les projets culturels aussi qui vont se mettre en marche avec plein d'associations.
Et vous arrivez à accueillir tous les demandeurs, tous les gens de passage par ici, tous ceux qui étaient déjà à Grande-Synthe ou ceux qui arrivent, parce que bon, les beaux jours vont arriver, on imagine qu'il y aura encore plus de,
bah,
de
oui,
réfugiés.
Bah, alors ça, le camp est fait pour 1500 personnes, il doit rester à 1500 personnes, donc comment on va faire pour accueillir ces gens-là, c'est une bonne question.
Mais ce qu'ils veulent, c'est quand même passer en Angleterre pour la plupart. Alors.
Pour la plupart, ouais. Oui. Pour la plupart, oui. Mais
faire une demande d'asile. Peut-être faire de une plus demande en plus, d'asile. L'idée, mais c'est d'accompagner dans ces demandes d'asile.
Ça dépend des personnes. Ouais. Ça peut changer du tout au tout par rapport aux personnes. Ouais. Il y a des personnes qui veulent rester en France, comme il y en a qui veulent partir en Angleterre. C'est sûr que je pense qu'une majorité veut partir en Angleterre, et ça changera pas. Par contre, on est en demande constante de volontaires et c'est très important que les gens se mobilisent et soient sensibilisés à la cause des réfugiés parce qu'on ne peut pas rester à regarder. On doit agir et on doit se mobiliser.
Et un peu plus loin, donc, la petite équipe est réveillée et il y a un brasero devant. Hello! Where are you come from?
Irak.
Il y a trois jeunes qui se réchauffent devant le petit brasero là de fortune. La petite maison, le shelter 174. Alors il y a tout leur bagage. Il y a quelques couvertures par terre. Et un petit coin cuisine où ils ont stocké des bouteilles d'huile, des boîtes de pois chiches et d'autres légumes. Ah, il y a un gros bout de poisson là. Il a plus l'air très très frais, mais bon. Et s'il va partir sur le brasero. Britannia. UK, voilà. Et ils sont en transit pour l'Angleterre. Voilà, on rentre dans la petite maison de...
Mama Jungle.
Mama Jungle. Merci. On peut s'asseoir là, merci.
Ah,
il y a des couvertures par terre, c'est bien douillet. Il y a un petit chauffage à pétrole. Et on est avec Hanna qui va nous traduire. Alors là, Hanna, par contre...
My name is Djouar Ibni.
C'est son fils.
Je m'appelle Djouar Ibni, je m'appelle Issa.
Et c'est son fils aussi, il s'appelle Issa.
Khamsa Oulat. Ou Khamsa Banat, qui est le Kurdistan, Mutazawji.
Elle est voyagée avec 5 enfants, ici sur le camp, ses fils. Et là, dans Kurdistan, en Irak, elle reste 5 filles qui sont mariées là-bas.
Ismi Ronak. Ronak Mohamed Amin. Ou Taulida Alef Tsamiya ou Tlatostin.
Je m'appelle Ronak Amin et je suis née en 1963. Je suis née à Kurdistan en Irak, à côté de Mossoul. Je suis partie à cause de Daesh. Daesh, ils ont cassé ma maison. Ils ont pris ma voiture, elles m'ont laissé comme ça dans la rue.
يوميات بشوفته بعيني هي البيشمركة داعش تحت كسر رأس من جسدي نحن نخاف من أولادي كسرت السر من الجسد.
Je suis partie parce que Daesh ils ont tué devant mes yeux ils ont coupé la tête de corps devant mes yeux. J'avais peur pour mes enfants qu'ils auront la même situation. On s'est enfuyé.
بالطريق قاچاغ نحن ما نريد ما نقبل أي جنسية أو باسبور وبيت داعش كسر بالنار بالغراضي وكله بس هذا نحن نهربه. إبراهيم خليل هي سنور كردستان العراق وكردستان تركيا.
On a passé sur la route un mois et demi. On est passé de Kurdistan Irak jusqu'à Turquie. Après on est venu en France. Et on n'avait ni de passeport ni de nationalité. On n'avait rien, ni de papiers. parce que Daesh sont venus sans brûler la maison. On n'avait rien du tout.
Et comment ça se passe ici, alors, en France?
Wallahi, nous, l'Europe.
C'est très très difficile de vivre ici. On est venu, on a pensé que l'Europe, elle va bien nous accueillir. On est là maintenant, on habite dans un jungle, dans des tentes. C'est très très difficile pour nous de vivre ici. C'est pas forcément je vais aller en Angleterre, c'est seulement si en France elle me donne la nationalité, j'aimerais bien rester avec mes enfants. N'importe quel pays, l'essentiel que on sera tranquille, on aura une maison. J'étais diplômée, j'ai fait mes études universitaires à l'université, spécialité de politique. Et après, j'ai travaillé avec les femmes, j'ai comment s'exprimer comme ça aux écoles, avec aussi les étudiants. Après, j'ai travaillé avec Peshmerga. Pendant 2 ans. En fait, c'est l'armée qui défend contre Daesh.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Mon mari, il est resté là-bas, à Peshmerga. Elle travaille avec eux. Mais je sais bien qu'elle va bien maintenant. Elle va bien.
Et là, vous attendez quoi? Vous avez fait une demande d'asile ici en France?
Aulati, talabti min el Canada ou Britannia, la française, c'est très difficile.
On a demandé l'asile à Canada, en Angleterre, parce que là-bas, c'est l'anglais. Ici, on ne peut pas rester en France parce que la langue française est tellement difficile pour mes enfants. Moi, j'ai 5 enfants, ils ne sont pas à l'aise avec la langue.
Et ça s'est arrangé, les conditions quand même de vie ici à Grande-Synthe depuis que le camp a été reconstruit?
Ça n'a rien à voir entre là-bas et ici. Là-bas, on était dans une tente, on craint la pluie, le froid, toujours, c'était horrible. Mais ici, on est dans des cabanes, on a aussi la poêle.
Le chauffage,
ça n'a rien à voir, on est bien ici. Pourquoi ici la France n'accepte pas qu'on aille en Angleterre ou au Canada? Pourquoi elle ferme les frontières?
In this world we are turning, labyrinth of my highs and lows disappears in a stream, but the river flows, myriad of the roads ahead, leave behind all the tears we shed. If I I can just get by on the feeling that the voyage is love we are learning. They are one, so inseparable. Let this traveler be.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Vous pouvez nous y laisser des messages, n'hésitez pas. Et faire courir le bruit sur les réseaux sociaux, que le bruit court, hashtag comme un bruit.
Et ce soir, à partir de 18h, où que vous soyez, nuit debout, nuit débat, allez-y. Juste après les informations, ce sera l'Esprit Inter avec Mathias Degel. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.